franceinter.fr.
Bonjour à tous. En ce dimanche de Noël, Interception s'arrête pour les 47 prochaines minutes à Jérusalem. Nous allons nous intéresser à la place des chrétiens dans la ville sainte. Depuis un demi-siècle, cette communauté a tendance à stagner. Elle représente environ 10 000 personnes, et c'est un chiffre officieux car il n'existe aucune donnée officielle sur le sujet. Si ce chiffre n'évolue pas, c'est souvent parce que les plus jeunes partent de Jérusalem. Les chrétiens de la ville sainte forment une mosaïque de communautés avec les églises catholiques, orthodoxes, arméniennes, etc. C'est une toute petite communauté, fragmentée et qui n'a même pas de langue commune. Les chrétiens historiques, va-t-on dire, de la région sont arabophones, mais dans ses rangs, la communauté chrétienne compte désormais, et leur part est de plus en plus grande, de nombreux fidèles issus des différentes vagues d'immigration. Pour les chrétiens, Jérusalem a avant tout une dimension spirituelle. Elle n'a pas de caractère politique, contrairement aux religions juives et musulmanes. Des rues de la vieille ville, où des millions de pèlerins viennent chaque année, au Saint-Sépulcre, le cœur de la chrétienté dans la ville sainte, les fidèles se disent souvent déboussolés, même s'ils sont viscéralement attachés à leur terre, leur ville et leur foi. Jérusalem, les chrétiens dos au mur. C'est un reportage d'Étienne Monin.
Interception, le magazine de la rédaction.
Les tambours, là qu'on entend, ce sont les tambours de la fête, d'un moment très particulier dans la communauté chrétienne, autour de Noël, qui est l'illumination des sapins. Ça se fait aujourd'hui dans un des quartiers de Jérusalem, c'est le quartier de Beth Hanina, un grand sapin avec des boules rouges qui est installé au milieu d'une cour. Il y a plusieurs centaines de personnes, donc finalement c'est une communauté, pour une communauté chrétienne catholique assez importante, ce sont des chrétiens catholiques palestiniens aujourd'hui, qui vont célébrer le début des festivités de Noël ensemble réunis. Il est à peu près 18h30, il fait nuit, il commence à faire un peu froid sur Jérusalem et c'est cette ambiance de fête qui s'installe dans cette communauté.
Je suis Sahar Mousla. Je suis professeure de français. C'est Noël et c'est une fête de joie aussi pour nous. Jésus est né. Il nous donne l'espoir aussi, malgré tout.
Vous, chrétiens catholiques, latins, vous vous sentez une petite minorité, aujourd'hui une minorité dans la minorité.
Oui, bien sûr. Il y a la minorité des chrétiens aussi. Soit catholique ou orthodoxe, les mêmes. Nous sommes ici, on va rester ici, Inch'Allah, on aura fait, Inch'Allah.
Qu'est-ce que ça fait de se sentir une minorité?
Parfois, entre les juifs et les musulmans, on se sent qu'on est perdu. Perdu, ça veut dire, nous sommes arabes, palestiniens, mais nous sommes chrétiens, donc arabes, c'est musulmans. On sent ça beaucoup. Et aussi pour les juifs, les israéliens, nous sommes arabes, même si nous sommes chrétiens. Entre les deux, nous sommes perdus.
On dit que parfois c'est difficile entre les palestiniens chrétiens et les palestiniens musulmans, ou entre certains palestiniens chrétiens et certains palestiniens musulmans.
Parfois, pas tout le monde. Il y a des musulmans qui sont très, je ne sais pas comment dire,
extrémiste, dur.
C'est ça. Mais aussi, il y a des musulmans qui sont très gentils. Je travaille dans une école catholique et il y a beaucoup de professeurs avec moi qui sont musulmans. Ils sont gentils. On sent que nous sommes comme sœurs et frères.
Thank you.
name is Samir Araman.
Je m'appelle Samir Araman. Je suis un chrétien palestinien d'ici. Je suis né sur la Terre Sainte. Je suis marié. J'ai deux filles et un garçon. Et je travaille pour la custodie de la Terre Sainte depuis 26 ans. Donc l'essentiel de ma vie est ici, en Terre Sainte. C'est ma terre ici. Je suis né ici. Mon héritage est là. Mon histoire est là. Tout est là. Comme chrétien aussi, c'est la terre du Christ. Et rester ici, ça fait partie de mon devoir. J'habite sur le Mont des Oliviers, dans la maison de mes grands-parents, leurs enfants sont partis et n'ont pas pu revenir. Maintenant, quand ils reviennent avec un passeport étranger, ils reviennent comme touristes pour 3 mois et ils ne peuvent pas vivre ici. Donc, si je pars, c'est la fin de ma famille et de la Terre Sainte. Et je ne veux pas faire ça.
Et si votre fils s'en va ?
Ça serait une catastrophe. Je le pousse à rester. Je lui transmets ce que j'ai appris, qu'on doit rester, que quelqu'un doit rester. Mais ce qui intéresse aussi mon fils, c'est de bouger, d'aller à l'étranger. Parce qu'il a fait plusieurs voyages avec l'organisation des jeunes chrétiens pour rendre visite au pape. Il est allé à Varsovie il y a quelques mois. Il a vu le mode de vie des autres jeunes de sa génération qui n'ont pas de problème pour apprendre les langues, pour avoir des visas. Tout est ouvert. Tout est libre. Donc il a découvert qu'il existe une vie meilleure à l'extérieur de notre pays. Quand il est revenu, il était très inquiet. Il était stressé, déçu. Et il disait, pourquoi on doit vivre de cette façon ? Regarde les nouveaux amis que j'ai rencontrés en Pologne. Ils ont une autre vie, meilleure, avec la liberté, un meilleur futur. Tout est possible pour eux, mais pas pour nous. Son point de vue en a été modifié. Il n'arrête pas de penser à partir dans un autre pays plutôt que de rester. Et c'est ce qui me fait vraiment peur parce que je veux qu'il reste.
Alors ici, on est dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem avec ces pierres magnifiques qui partent dans ce dédale de ruelles. C'est un peu votre terrain de jeu ici ?
Non, voilà, j'ai grandi ici dans la vieille ville. Maintenant, j'habite à la banlieue. Mais quand j'étais petit, oui, j'avais été dans le quartier musulman. J'ai monté tous les jours pour aller à l'école, voilà, dans des petites ruelles à Jérusalem, dans ce vieux quartier, oui.
Anthony Sabella, vous êtes guide. Vous faites cette profession depuis 18 ans ici. Les pèlerins à Jérusalem, combien ça pèse en termes économiques, en termes sociaux ? C'est un aspect de la vie quotidienne des Palestiniens qui vivent dans la vieille ville, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, puisqu'il y a les deux communautés.
Ah, je pense que le pèlerinage, il apporte pas seulement une aide spirituelle aussi pour les pèlerins qui viennent ici, mais c'est aussi un poids aussi économique. Tout le monde vit de cela, que ce soit des musulmans ou des chrétiens. La plupart des magasins, 80% des magasins dans la vieille ville appartiennent à des musulmans, plus que les chrétiens. Il y a peut-être très peu de chrétiens qui ont des magasins de souvenirs. Le pèlerinage est très important pour l'économie palestinienne, que ce soit même juif. Il y a des pèlerins qui vont aller dans le quartier juif acheter des menorahs, des chandeliers à 7 branches, des chauffards là pour la fête de Sukkot, la fête des tentes. Il y a plein qui vont acheter des croix, et ceux qui vendent les croix, c'est aussi des musulmans, des chapelets et tout ça.
Nous voulons notre liberté comme palestiniens et pas comme chrétiens. Parce que je veux être un citoyen. Bernard Sabella, professeur de sociologie à l'Université de Bethléem, en retraite, parlementarien palestinien à Ramallah, et bien actif avec les réfugiés palestiniens au sein du Conseil des Églises du Moyen-Orient. Comme chrétiens palestiniens, nous sommes comme les autres Palestiniens. Et nous n'exprimons pas à être privilégiés parce que nous sommes sous une occupation militaire, politique, administrative, économique. Alors nous voulons notre liberté comme Palestiniens et pas comme chrétiens. Parce que l'avenir de cette région, ce n'est pas basé sur la religion. C'est basé sur des États qui respectent les droits de citoyens comme citoyens et pas comme chrétiens, juifs ou musulmans. Et il y a un danger réel de faire des États religieux où les citoyens sont protégés. Moi, je ne veux pas être protégé par Hamas, par Israël, par quelconque gouvernement, parce que je vais être un citoyen. Même les Palestiniens chrétiens en Israël, qui sont environ 120 000, demandent être pas protégés, mais demandent avoir les mêmes droits comme les autres Israéliens.
Frère David Grenier, je suis un frère canadien, québécois, qui habite en Terre Sainte. Je suis le secrétaire de la custodie de Terre Sainte, de l'ordre franciscain.
C'était le 26 octobre dans le Saint-Sépulcre, devant le tombeau du Christ. Ce qui se passe ce jour-là n'est arrivé que deux fois dans l'histoire de la chrétienté.
Et c'est un mercredi soir, c'était à l'heure où normalement il se fait la fermeture, un peu avant la fermeture. On était quelques représentants de chacune des trois communautés qui sont responsables du Saint-Sépulcre, donc les Grecs orthodoxes, les Arméniens orthodoxes et nous les Franciscains. On devait être une trentaine de personnes au total. On se rendait compte que c'était un moment historique. Ça faisait 200 ans que la plaque de marbre qui recouvre le lieu où la pierre sur laquelle on avait déposé le corps de Jésus n'avait pas été enlevée. C'était la première fois depuis 200 ans qu'on pouvait la regarder, voir justement toucher, si je peux dire, le mystère de manière concrète de ce qui s'est passé sur le lieu. Et donc on était conscient que c'était vraiment un moment spécial et qu'on était privilégié d'être là. On voyait pas grand-chose, mais déjà seulement on voyait une petite ligne de peut-être 4 ou 5 cm de sable. Et pourtant, il y avait une émotion très très grande qui se sentait, je veux dire, à l'intérieur de nous et entre nous aussi. On entrait un par un parce que l'espace est très très limité. Chacun sortait, que ce soit grec, arménien ou franciscain, les yeux humides, l'émotion qui passait dans le regard. J'ai pu toucher la pierre le lendemain. Le jeudi, je suis retourné parce que les travaux se sont passés durant 3 jours. Et j'ai eu le privilège de toucher cette pierre-là que personne n'avait touchée depuis 200 ans.
C'est ici, dans l'atmosphère particulière, fervente du Saint-Sépulcre au sein de la vieille ville de Jérusalem, qu'a eu lieu cette opération à cœur ouvert. Elle a duré 3 jours. Elle a consisté à faire coulisser la dernière protection pour accéder à la pierre de la carrière dans laquelle se trouve, d'après la religion chrétienne, le tombeau du Christ. C'était un événement à la fois historique, religieux et scientifique. Il a eu lieu dans le cadre des travaux de rénovation des édifices qui protègent cette pierre. Le Saint-Sépulcre est toujours un chantier qui est fermé la nuit lorsque les derniers pèlerins quittent le site. Les travaux sont coordonnés par Antonia Maropoulou. Elle est de l'Université Polytechnique d'Athènes. C'est une chimiste, une spécialiste de la protection des monuments. Elle était au premier rang lorsque la communauté religieuse et scientifique a pu accéder à la pierre du tombeau du Christ et elle était là avec son matériel et son regard scientifique.
Vous Les techniques que l'on a utilisées ont d'abord servi à faire glisser la plaque de marbre sans rien endommager. Et ça n'a pas été facile, parce que c'est une construction complexe. Ça, c'était le premier et l'aspect le plus important. La deuxième chose, c'était de documenter et de voir ce qui se passait. Pour cela, on a utilisé, dès le début, des techniques qui ne laissent pas de traces, comme le radar à pénétration de sol, le microscope à fibre optique, la tomographie acoustique. Et on a essayé d'utiliser tous ces outils sur la tombe.
Est-ce que les instruments ont fonctionné correctement ?
Au tout début, non. La plupart des instruments, pas tous, mais la plupart étaient bloqués.
Et vous savez ce qui s'est passé ? Pourquoi ça n'a pas marché ?
Non, je ne sais pas. Et je ne veux pas amorcer cette discussion maintenant. Je ne veux pas faire de spéculation. Je suis juste obligé de dire ce qui s'est passé.
Est-ce que vous avez fait des prélèvements de la tombe, pris des morceaux pour les étudier après ?
On a pris des morceaux pour les analyser, mais on ne cherche pas à savoir d'où ils proviennent. Par exemple, certains journalistes m'ont demandé si j'allais découvrir l'ADN de Jésus. Non. On ne fait que des recherches sur l'état de la chambre funéraire. C'est tout ce que l'on fait.
David Grenier, si la science un jour, dans les analyses qui sont faites, revient vers vous et dit « mais on a la preuve que c'est vraiment, scientifiquement cette fois, le tombeau du Christ », qu'est-ce que ça changerait pour vous, homme de foi ?
Moi, ça ne changerait pas grand-chose, parce que dans la foi, déjà, je suis profondément convaincu par ce que j'ai vécu. Ce que j'ai ressenti ce soir-là, justement, quand ils ont ouvert la tombe, c'est quelque chose qui peut pas vraiment s'expliquer, c'est quelque chose qui se vit. Nos mots humains sont toujours très faibles pour décrire l'expérience de Dieu, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse et qui dépasse notre humanité.
Il y a des attentes particulières par rapport à ces travaux scientifiques ou ça va venir comme ça au fur et à mesure ?
J'ai pas lu les détails, mais je sais qu'ils sont restés touchés et surpris de ce qu'ils ont découvert. Il y a plusieurs éléments qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à trouver, qu'ils ont trouvé. J'ai entendu dire que les scientifiques ont pu voir très bien la structure de la pierre, que c'est vraiment un tombeau sur lequel, et sur cette pierre-là, on a vraiment déposé quelqu'un qui était mort. Je ne suis pas scientifique, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je peux vous dire que c'est une des conclusions qui est sortie des travaux. Pour le reste, on verra.
On pourrait se croire ici dans une petite église ou une cathédrale parce que ça résonne, mais ça n'est pas du tout le cas. On est dans un bâtiment administratif au centre de Jérusalem. Et on va taper à la porte d'un avocat pour essayer de comprendre la nature aujourd'hui des relations entre les églises et l'État d'Israël. C'est une relation complexe sur un aspect qui est un aspect financier, fiscal. Les églises n'ont toujours pas résolu leur situation par rapport à ça, notamment sur les taxes locales. Le Saint-Siège, par exemple, est en train de négocier avec l'État d'Israël. C'est une vieille négociation, ça fait 20 ans que ça dure, puisqu'en 1993, le Saint-Siège a reconnu l'État d'Israël et que quelques années plus tard, Israël a reconnu la personnalité juridique de l'Église. Cette négociation est toujours en cours. Elle inquiète les communautés. Elle risque de coûter très cher en taxes locales. On va donc aller voir avec Rami Wakile pourquoi tout d'un coup l'Église se retrouve à devoir négocier sur un statut fiscal alors que pendant des années, des décennies, des siècles, elle n'a pratiquement rien payé de ce point de vue-là avant la création de l'État d'Israël.
Quand l'État d'Israël a été créé, ils ont demandé et réglementairement exigé que toutes les institutions, y compris religieuses, payent les taxes locales. Ils ont fait une dérogation pour les 13 églises reconnues, comme c'était le cas sous la loi ottomane, britannique et jordanienne, avec un cas particulier pour le Vatican. Le Vatican est reconnu comme un État, pas seulement comme une Église. Il possède des milliers d'hectares avec des terres, des bâtiments, des églises, etc. L'Église affirme que tous ces biens et que tout ce qui dépend du Vatican devrait être exempté de la taxe locale, comme c'est le cas pour les États à l'intérieur d'Israël. En ce moment, c'est le plus gros problème entre le Vatican et l'État d'Israël. Ils veulent une reconnaissance comme État, alors que le gouvernement d'Israël a l'intention de limiter cette reconnaissance aux endroits qui ne sont utilisés que pour le Vatican et des institutions qui dépendent du Vatican. Un hôtel comme celui de Notre-Dame ou d'autres institutions ne sont pas reconnues et les Israéliens ne veulent pas les reconnaître comme église parce qu'elles ont une activité commerciale. Le propriétaire, c'est le Vatican, mais c'est utilisé comme un commerce et ils ne peuvent pas contrôler les revenus de ces institutions, donc les Israéliens disent que ce n'est pas une église. Ça, c'est le problème du Vatican. Concernant les autres églises, elles n'ont pas le privilège d'être reconnues comme État. Donc, elles négocient séparément avec les municipalités en fonction de leurs biens et de la loi. Le deuxième ou troisième plus gros propriétaire de terres et de biens en Israël, c'est l'Église grecque orthodoxe. Ils ont beaucoup de terres, de bâtiments dans la vieille ville, à Jérusalem, à Tel Aviv et dans tout l'État d'Israël. Ils ont des gros problèmes maintenant, plus que le Vatican, parce qu'ils ont plus de propriétés et ils traitent le problème de façon dispersée avec chaque ville. Ils ne discutent pas comme une seule église. Et comme il y a des règles et des décisions dans chaque ville, cela crée de la confusion. Ils n'essayent même pas d'approcher le gouvernement israélien pour avoir une dérogation. La position légale de l'Église, c'est « si on doit payer, on payera ». Mais en attendant, on ne paye pas. Parce qu'en parallèle, ils louent aussi beaucoup de bâtiments à l'État israélien. Donc, ils pourraient s'arranger en utilisant les loyers pour payer les mairies. Jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a eu aucune poursuite contre l'Église grecque orthodoxe. Et donc, ils ne payent toujours pas la taxe locale sur 70% de leurs propriétés.
Johnny.
Oui, c'est moi, mais on a dit midi et demi, non?
Eh, il n'y a pas de problème.
Dans une demi-heure, on sera en haut.
En haut, c'est où en haut?
Juste en face de de l'église.
Bonjour à tout le monde, je suis le père Johnny Aboukhalil. Je suis un prêtre diocésain du Patriarcat latin de Jérusalem. Et maintenant, je suis le curé de Ephraim Taïbé, à 30 kilomètres de Jérusalem.
Alors, est-ce qu'à Jérusalem, ces discussions entre le Saint-Siège et Israël sur le statut fiscal de l'Église à Jérusalem est un souci, un objet d'inquiétude? Existe-t-il aujourd'hui une matière à inquiétude?
De vous dire la vérité, oui, parce que nous, les chrétiens de la Terre Sainte, les chrétiens de la Palestine, nous intéresse beaucoup ce sujet. Parce que notre situation comme chrétien dans l'État d'Israël, c'est aussi important. Jérusalem et surtout les lieux saints est maintenant sous l'autorité israélienne. Et c'est à cause de ça, pour nous, cet accord entre le Saint-Siège et l'État d'Israël est aussi important pour moi, pas comme un prêtre seulement, mais aussi comme un Palestinien chrétien.
Matériellement, quelle incidence ça pourrait avoir ?
Je sais que l'État d'Israël demande les taxes sur toutes les communautés qui se trouvent à Jérusalem et en Israël en tout. Ça veut dire dans la Palestine historique qui a été occupée en 1948. Et ça veut dire qu'ils ont besoin des taxes sur les bâtiments. Ils demandent ces taxes de temps de 48 ou de 67. Alors si on doit payer les taxes, on parle des millions et des millions et des millions de dollars. Et si vraiment Israël arrive à prendre ces taxes-là, je ne crois pas qu'il y a une seule organisation qui peut payer tous ces millions de dollars qui est depuis le temps jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une façon de dire, vous les chrétiens, vous n'avez pas de la place de rester ici. Alors si vous n'avez pas la capacité de payer les taxes, vous devez quitter. Ou vous devez fermer toutes vos communautés, imaginez-vous. Et ça, c'est notre problème. Plus que c'est un problème politique, moi, je parle comme le problème plus humain.
Est-ce que certaines communautés ont déjà reçu des appels à payer sur ces taxes, à votre connaissance ?
On a reçu beaucoup, oui. On a reçu, mais jusqu'à maintenant, personne ne paye. Même dans l'État de la Palestine, nous avons tellement de guest houses et des hôpitaux et des écoles dans l'État de Palestine et on ne paye rien. Parce que les Palestiniens et l'autorité palestinienne sachent que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a, c'est pas pour notre bien et ça aide l'État palestinien à ne pas vraiment prendre charge des problèmes financiers des chrétiens. Et ça diminue un peu de la responsabilité de l'autorité palestinienne envers les Palestiniens, parce que ça leur aide surtout l'aide sociale qu'on peut nous aider l'autorité à faire. Et ça doit être le cas avec Israël. Parce que Israël, s'il veut payer et s'ils vont prendre tout ça, ils ont aussi des charges à payer pour les églises, pour les prêtres, pour les sœurs qui aident et qui supportent les hôpitaux. C'est eux qui doivent prendre la responsabilité des hôpitaux. Eux, ils ne prennent rien de ces responsabilités.
Je m'appelle Père David Neuhaus, je suis un père jésuite et je sers actuellement comme le vicaire épiscopal pour la communauté catholique de langue hébraïque en Israël. Cette communauté a été née il y a 61 ans. Juste après la création de l'État d'Israël, quand l'Église a commencé à découvrir que parmi les millions de Juifs qui arrivent après l'établissement de l'État d'Israël, il y avait aussi beaucoup de catholiques. Ces catholiques ont été constitués par des groupes assez divers, très peu de Juifs convertis, mais plutôt les femmes, les époux des Juifs qui arrivaient ici de l'Europe. Beaucoup de Juifs ont découvert leur identité juive à la suite de l'antisémitisme européen et spécialement le nazisme. Et en cela, les Juifs qui ont décidé qu'il n'y a plus de place pour les Juifs en Europe, ils ont amené avec eux en Israël toute la famille. Et parfois, cette famille incluait aussi des chrétiens, des gens baptisés. Et là, la communauté a commencé. Mais aujourd'hui, avec une population très changée, parce que malheureusement, beaucoup de nos originaires, ceux qui sont venus ici, ils ont été assimilés dans une population juive laïque. Ah, beaucoup ont quitté l'Église. Hein? Ils ont été ici intégrés dans les écoles. Ils voulaient être comme tout le monde. Ils ont été enseignés que les chrétiens n'ont été pas très gentils avec les juifs pendant les siècles, une chose très vraie. Bien sûr, ça a amené à certains à rejeter la foi chrétienne. Et l'Église a presque disparu. Mais nous avons reçu une deuxième occasion de remanifester notre foi chrétienne dans l'Église catholique avec les grands changements dans la démographie. Première chose, beaucoup de nouveaux immigrés arrivés de l'ex-Union soviétique et parmi eux, beaucoup de chrétiens. Après, beaucoup de migrants de travail. Israël est un pays riche, presque au même niveau que l'Europe. Ça veut dire beaucoup d'Asiatiques et Africains qui sont arrivés ici comme migrants de travail et ils ont commencé une vie ici. Et à partir de 2007, aussi une population des réfugiés africains qui arrivent. Malheureusement, ils n'ont pas le statut de réfugiés, très difficile en Israël pour eux. Les chrétiens qui vivent dans la société juive israélienne hébraïophone sont très très nombreux.
Si on doit regarder concrètement ce que ça veut dire quand vous dites très très nombreux, si on prend les Russes, si on prend les migrants, si on prend les Africains qui sont arrivés en Israël, qu'est-ce que ça représente?
Avant que je dise qu'est-ce que ça représente statistiquement, c'est très important de savoir qu'il y a une population ici qui est enracinée et ici depuis toujours, c'est les chrétiens qui parlent l'arabe. C'est les chrétiens palestiniens qui sont citoyens israéliens après 48. Ils parlent l'arabe, ils font partie du peuple palestinien arabe. Ils sont ici depuis toujours et aujourd'hui, ils représentent dans la société israélienne autour de 120 000 personnes. À côté d'eux, okay, unifiés par la foi, mais pas unifiés par la société, il y a autour de 40 000 Israéliens, citoyens qui sont chrétiens et ne sont pas arabes. La grosse majorité sont des russophones d'origine. À côté de cette population de citoyens israéliens, autour de 160 000, il y a presque le même nombre de migrants de travail et de chercheurs d'asile. La majorité asiatique et africain. C'est-à-dire, c'est un grand défi pour l'Église de la Terre Sainte aujourd'hui d'accueillir une population aussi grande, pas grande en nombre, mais grande par rapport à la proportion qu'il représente des chrétiens en Terre Sainte. Il y a aujourd'hui en Israël plus de catholiques philippins que de catholiques arabophones.
Vous êtes né dans une famille juive?
Moi, je suis né dans une famille juive allemande en Afrique du Sud. Ah, je suis arrivé en Israël à l'âge de 15 ans et c'est exactement à cette époque que j'ai rencontré le Christ, que j'ai décidé que je veux être chrétien. J'étais baptisé 11 ans plus tard à cause d'un long dialogue avec mes parents qui finalement ont accepté. 4 ans après mon baptême, je suis entré à la Compagnie de Jésus.
Comment est-ce que la société israélienne accepte un parcours comme le vôtre, chrétien, aujourd'hui, alors qu'originellement d'une famille juive?
La première chose peut-être à souligner, qui n'est pas évident partout, c'est qu'un Israélien, un citoyen israélien, a la liberté de la religion. Maintenant, être chrétien est vu comme un type de trahison, et très souvent pas à cause d'une différence religieuse, une critique théologique du christianisme, mais plutôt avec cette interrogation, qui était l'interrogation aussi de mes parents. Comment tu peux te rejoindre à ceux qui nous ont fait tant de mal dans l'histoire? Et c'est une question brûlante. Quand j'ai décidé d'être catholique, c'était parce que dans l'Église catholique, j'ai trouvé des gens qui ont été perplexés par cette question. Ils ont voulu commencer quelque chose de nouveau avec le peuple juif. Cela m'a beaucoup soulagé. J'ai rencontré le Christ pas dans l'Église catholique, mais dans l'Église orthodoxe. Et je ne suis pas devenu orthodoxe parce que là, je n'ai pas trouvé le même type d'ouverture envers une pensée critique par rapport à notre histoire et la tentative vraiment d'ouvrir des portes de réconciliation avec le peuple juif. Yeshua Shmaelenu
Le docteur Amnon Ramon, chercheur à l'Institut de Jérusalem pour des recherches sur la politique israélienne.
Dans l'Église catholique, il y a une part importante de fidèles qui pratiquent en langue hébraïque. Est-ce qu'il y a un débat, à votre connaissance, au sein de l'Église sur son positionnement entre ces deux facettes, à la fois ceux qui sont insérés ou qui essayent de s'insérer dans l'État d'Israël en langue hébraïque, et puis les catholiques qui sont, eux, d'origine arabe et qui sont de l'autre côté d'une ligne.
C'est un des plus grands challenges de l'Église catholique en Israël. C'est en fait un des sujets les plus importants qui préoccupe l'Église catholique, le patriarcat latin en Israël. La question qui, fondamentale qui se pose, c'est est-ce que nous sommes une communauté, une seule congrégation qui appartiennent tous à l'Église catholique, ou est-ce que nous devons admettre que nous sommes une mosaïque de communautés dans laquelle il y a des juifs, entre guillemets, catholiques et des arabes catholiques, et que c'est cette mosaïque qui forme la congrégation catholique en Terre Sainte.
Est-ce que derrière ça, il y a un problème d'identité pour l'Église catholique ?
L'Église catholique aujourd'hui est en train de traverser un changement profond et très grand. Elle ne peut plus se baser seulement sur les croyants des anciens territoires de l'ancien continent. Les choses s'ouvrent et changent. La plupart des croyants aujourd'hui viennent des pays du tiers-monde. Et dans ce contexte-là, elle doit s'ouvrir aussi, ouvrir ses portes aussi à de nouvelles communautés qui viennent et qui vivent dans son diocèse de cette région. Donc, il doit s'ouvrir à eux aussi.
Dans Jérusalem, on trouve des dizaines d'endroits qui sont incroyablement beaux, mais ce site-là est dans la liste des endroits les plus marquants. On est sur le mont Zion qui surplombe la vieille ville. C'est un concentré de religions avec le cénacle, le tombeau de David et la magnifique abbaye de la Dormition. À ce croisement des religions, dans un bâtiment glacé à cette époque de l'année, on rencontre un groupe de croyants qui avance à contre-courant des tensions qui peuvent exister entre les trois religions monothéistes. Ils sont juifs, chrétiens et musulmans. Une fois par mois, ils prient ensemble pour faire tomber les barrières. C'est un mouvement qui existe depuis un an et demi, qui est dirigé par Pita John Spellar. Elle appartient à l'Elijah Interfaith Institute. C'est une bulle d'harmonie dans cet univers de tension où les frontières entre les religions sont à la fois très marquées et invisibles.
Oui, je suis toujours triste quand je vois que la religion est utilisée comme un outil de pouvoir. L'une des choses qui m'a particulièrement mise en colère, c'est il y a quelques mois, quand j'ai entendu des jeunes dire qu'ils étaient très fiers de diffuser la prière « Shema Israël, écoute au Israël » par haut-parleur. Je leur ai demandé « Pourquoi vous êtes si fiers de cela ?» Ils ont répondu « On est obligé d'écouter le muezzin 5 fois par jour pour l'appel des musulmans à la prière, donc on veut nous aussi qu'on entende la prière. » Et je me suis sentie très triste parce que pour moi, Dieu n'a pas besoin de haut-parleurs pour entendre nos prières. La prière ne devrait définitivement pas être utilisée pour revendiquer, pour s'imposer. En fait, ça dit des choses très tristes sur les relations entre religions dans ce pays. Au lieu de reconnaître que l'on prie tous le même Dieu avec le même message, les religions, enfin les leaders religieux, utilisent les religions pour accentuer les différences plutôt que les points communs. Moi, comme juive, je suis quelqu'un qui a toujours été dans la minorité. minorité. Dans tous les autres pays, on est une minorité. Mais ici, on est la majorité. Et je ne pense pas que la majorité des Juifs soit consciente de cela. Ils ne le voient pas, ils ne le ressentent pas, ils se considèrent toujours comme une minorité menacée. Et je pense que certains comportements de Juifs, certaines attitudes vis-à-vis des non-Juifs, viennent de ce sentiment d'être toujours une minorité assiégée. On doit sortir de cela, on doit réaliser qu'on est de retour sur notre terre, on est une majorité, on doit être généreux, ouvert, vis-à-vis de ceux qui sont maintenant une minorité sur notre terre. Et je peux le voir autour de moi, je pense que certains chrétiens ont du mal à se retrouver en minorité. Ils viennent d'endroits où ils étaient majoritaires. C'est intéressant de voir que ceux qui nous ont rejoints à une exception près sont tous des immigrants ou ce qu'on appelle des blancs. Ils viennent d'Europe, d'ailleurs. On a seulement un chrétien d'ici qui vient régulièrement parce qu'il y a un manque de confiance du côté de la communauté chrétienne locale. La communauté locale chrétienne palestinienne est prise entre deux feux. Ils ont peur d'être accusés de participer à une normalisation en allant avec nous et de subir l'hostilité de leurs voisins musulmans. Et de l'autre, il y a de la méfiance et une forme d'insécurité vis-à-vis de leur propre statut dans cet endroit très perturbé. C'est un problème. Les chrétiens sont une toute petite minorité, une minorité dans une minorité. Ils ont la pire des positions.
Bernard Sabella. Retour aux portes de la vieille ville de Jérusalem, dans le bureau de Bernard Sabella, palestinien, chrétien, catholique, sociologue, au carrefour de cette identité éparpillée.
Moi, j'ai le sentiment que l'Église, depuis Jean-Paul II, a un peu éloigné d'être vraiment une voix prophétique pour la paix entre Palestiniens et Israéliens. Il y a la diplomatie, il y a la sensibilité avec les communautés juives de l'Europe, des États-Unis, des autres pays. Ils ont plutôt des diplomates. Par exemple, s'il y a un problème avec Israël, il ne dit pas « Ah, c'est mal !» Non, non, non. Il dit « Il faut qu'Israël change ça pour le bien des Israéliens et Palestiniens. » Mais pas « pointing the finger ». Vous savez,
en c'est France, pas dénoncer en pointant du doigt les responsabilités.
C'est ça, c'est pas dénoncer, c'est pas dénoncer. Et moi, je ne dis pas qu'il faut que l'Église dénonce. Mais de l'autre côté, il faut que l'Église éclaire sur des positions des droits de l'homme, de l'illégalité de l'occupation. Et moi, je pense que l'Église préfère de ne pas intervenir d'une manière politique. Ils ont peur que ça peut être compris comme intervention au niveau politique, et l'Église est plutôt une institution religieuse, morale, éthique, et pas une institution politique.
Mais est-ce que ça voudrait dire que l'Église se désengagerait un peu du conflit ?
Oui, certainement, je pense ça, je pense ça. Même au niveau du pape, de dire « assez », aux problèmes politiques de Moyen-Orient. Il a dit ça sur la Syrie, sur l'Irak, mais assez sur quand même la situation en Israël et la Palestine. Par exemple, quand Pope François a venu à Bethléem, moi, je n'étais pas tellement impressionné avec son adresse pendant la messe à Bethléem.
Est-ce que ce voyage, ça symbolisait ce que vous dites, ce que vous ressentez, c'est-à-dire ce désengagement de l'Église vis-à-vis
oui,
du conflit?
Oui, et je pense que la position de l'Église a retraité, à mon avis.
Quand vous dites retraité, la position de l'Église, c'est l'Église s'est un peu retirée du conflit?
Retirée de chercher avec les deux parties une solution, comment sortir. Parce que l'avenir ici, c'est un avenir de deux peuples ensemble, côté à côté. Même aujourd'hui, avec le conflit en Irak, Syrie et les problèmes de l'Europe, même si nous ne pensons pas à travailler avec ardeur et courage pour la paix entre Palestiniens et Israéliens, peut-être un jour, ça sera très très en retard.
Les chrétiens de Jérusalem, dos au mur, c'était un reportage d'Étienne Monin, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Stéphane Combe, mixage Jean-Philippe Jeanne. La page internet de l'émission est-elle enrichie par le travail de Zora Bensmaili. Toute l'équipe d'Interception se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël et de très très belles fêtes de fin d'année. À dimanche prochain.
Les chrétiens de Jérusalem, c'était Interception, le magazine de la rédaction de France Inter. Merci à Vanessa Descoureaux. Si vous souhaitez approfondir le sujet du jour, notez que vous disposez sur le site internet de l'émission différents liens vous renvoyant à des articles comme celui d'André Lemaire, Jérusalem, une ville mythique, si chargée d'histoire, ou encore un article du 17 octobre 2016, la résolution de l'UNESCO sur Jérusalem ignore aussi ses racines chrétiennes, et pour finir un article du 6 mai 2009, Jérusalem au carrefour de trois religions monothéistes. Vous retrouverez bien sûr le magazine Interception dimanche prochain, toujours à partir de 9h10.